Bon dimanche.
Bonjour.
Ça va bien? C'est bien. Alors, il fait un temps superbe, le soleil magnifique, le ciel est bleu, il n'y a pas un nuage. J'ai vu du curé de la neige en France, 14 mètres qui devait tomber cette nuit. Bon, on n'a rien vu. Voilà. Autrement, à part ça, quand même, je vous tiens au courant, vous qui venez sur Internet, vous savez par quelle épreuve nous avons passé. Je parle au passé déjà, parce que maintenant, les deux tiers, c'est réglé. Avec mon épouse, nous sommes allés lundi passé pour un examen approfondi, je ne vous fais pas de dessin, au sujet de cette tumeur cancéreuse que j'avais, qui a disparu. Et c'était juste un contrôle de routine. Vous savez, tous les trois mois, je dois passer un contrôle. C'est très rassurant, c'est très bien, parce que comme ça, au moins, si jamais ça se redéclenche, on soigne tout de suite. C'est bien, on vit du bon côté de la planète, hein. On a vraiment des médecins extraordinaires, des gens fantastiques. Et là, à Toulouse, on a trouvé une bonne équipe, alors l'examen, bon, ça peut pas être mieux, ça peut pas être mieux, tout est bien. Il y a juste un tout petit point rouge, elle m'a dit, voyez ça, ben, c'est la seule chose qui vous reste, c'est-à-dire c'est une petite brûlure due au rayon. C'est tout petit, c'est gros comme une tête d'épingle, voilà, c'est rien du tout. Même la cicatrice a disparu. Il n'y a rien, rien, rien. Alors on peut dire merci Seigneur. Le mal atteint souvent celui qui est justifié, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. C'est vrai, c'est bon. C'est bon d'être avec Jésus, comme on l'a chanté tout à l'heure. Avec Jésus, la vie est belle. Il y a des moments difficiles, mais on n'apprécierait pas les bons moments s'il n'y avait pas des mauvais. Ben, c'est vrai, c'est un peu comme ça qu'on est fait, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Voilà, donc on apprécie bien quand ça va. Ce matin, je voudrais que nous fassions une première lecture dans l'Apocalypse, au chapitre 1, et versets 4 à 6. 1, 4 à 6. De la part de Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Jésus, je te prie de bénir cette prédication que je vais apporter, qui n'est pas une menace, mais qui est un appel à cause de l'amour. Je te demande, mon Dieu, de bénir les personnes qui vont l'entendre, afin que, si quelque chose n'est pas en règle avec, dans leur vie, ils puissent se mettre en règle avant ton retour qui est proche, nous le savons, et qu'ils ne se trompent pas, ne s'abusent pas eux-mêmes par des vains raisonnements. Merci Jésus. Amen.
Amen.
Donc ce matin, je veux revenir sur un sujet de la plus haute importance, la prêtrise. La prêtrise. Le Seigneur Jésus nous aime, c'est-à-dire qu'il a confiance en nous et il a confié aux siens des responsabilités et nous allons étudier ce matin ces choses-là au sujet de la prêtrise au travers des âges. Vous savez que Jésus nous a lavé de nos péchés par son sang, c'est une réalité et le Père nous voit pur au travers du sang de Jésus-Christ. Quand nous mourons, nous passons par un premier jugement. Et si nos œuvres sont mauvaises, si nous n'avons pas accepté Christ, nous sommes mis dans le mauvais côté du séjour des morts, là où est le riche, enfin pas tous les riches, mais le riche de la parabole. Et si nous sommes jugés, quand on est enfant de Dieu, ben nous allons directement dans le sein d'Abraham, ou paradis, enfin il y a toutes sortes de mots pour dire, mais voilà. Et nous attendons le jugement dernier. Le jugement dernier n'a pas encore eu lieu, hein, ça sera au grand trône blanc, et là nous ressusciterons tous, nous recevrons de nouveau nos corps, et puis on sera jugés, non pas nous les chrétiens, pour savoir si on est sauvé ou pas, mais pour recevoir des récompenses, et puis tous les autres, parmi tous ceux qui seront là, ben, il y en a qui seront sauvés, ça va dépendre si leur nom est inscrit dans le livre de vie, vous connaissez toutes ces choses, je vous les ai enseignées, re-enseignées, et voilà. Jésus a fait de nous un royaume, dont il est le roi. Et dans ce royaume, nous sommes des prêtres pour Dieu son Père. C'est ce que nous venons de lire là. Alors qu'est-ce que c'est qu'un prêtre? Alors évidemment, avec 2000 ans d'histoire soi-disant chrétienne, on a une idée au sujet de ce que c'est qu'un prêtre. Oubliez ça. Oubliez ça. Il faut regarder maintenant ce que la Bible dit et non pas ce que notre culture, nos traditions nous disent. En fait, les prêtres, d'après la parole de Dieu, d'après la Bible, ce sont, excusez-moi le terme, mais c'est un terme moderne, ce sont des spécialistes du sacré. Voilà ce que c'est un prêtre. Nous sommes un peuple de spécialistes des choses du sacré. Nous sommes les médiateurs entre Dieu et les gens qui sont perdus. La Bible, je sais, la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Mais il nous a chargés d'être médiateurs entre son Église et les gens qui sont perdus. Parce que si nous n'allons pas les évangéliser, ils ne pourront pas savoir que Jésus-Christ est le Sauveur, etc., etc. S'il n'y avait pas eu des docteurs pour traduire la Bible et la mettre en ordre, eh bien, nous n'aurions pas de Bible. Et donc, vous voyez, Dieu, il y a des médiateurs, ce sont les prêtres. Les prêtres. Alors, il faut savoir qu'avant l'exil, dont il est question dans la Genèse, avant cet exil-là, il y avait des patriarches, mais il n'y avait pas de prêtres. Sauf un, est-ce que vous pouvez me donner son nom? Melchisédek, qui était roi de Jérusalem. On trouve ça dans Genèse 14, 18, 20. Vous irez lire, vous irez étudier. Je vous demande d'étudier correctement ces choses. Avec Moïse, quelque chose de nouveau s'est produit. Moïse est de la tribu de Lévi. Et il a cumulé toutes les fonctions. C'est pourquoi il est dit que quand Jésus viendra quelqu'un, un prophète comme Moïse, c'est-à-dire qu'il cumule toutes les fonctions. Il a cumulé la fonction de chef du peuple, de prophète, de législateur. Il a tout fait ça. Et puis, il avait un frère qui s'appelait Aaron, qui était son second. Les seconds, c'était pas toujours ça. Vaudor, compagnie, c'est terrible. Aaron a joué un rôle donc secondaire. Il exerçait, si vous voulez, une moindre prêtrise par rapport à Moïse. Est-ce que vous suivez bien? Il exerçait une moindre prêtrise, c'est-à-dire qu'il n'avait pas la charge de Moïse, mais il exerçait quand même une prêtrise que Moïse pouvait exercer, mais qu'il n'exerçait pas, ou pas tout le temps, parce qu'il avait d'autres choses à faire, des choses plus importantes. Et c'est façon de parler, tout est important dans le royaume de Dieu. C'est ainsi qu'on va l'appeler, c'est-à-dire on va appeler cette prêtrise, la prêtrise d'Aaron, la moindre prêtrise. Voilà, on peut l'appeler comme on veut, on peut lui donner le terme qu'on veut, mais c'était une moindre prêtrise. La tribu de Lévi a été reconnue comme chargée du culte. Vous trouvez ça dans Exode 32, 25 à 29. Dans Exode 33, 8, 11. Dans Juges 17, 18. Voilà, ça c'est donc la tribu de Lévi qui est reconnue, c'est eux les prêtres, n'est-ce pas, dans le peuple de Dieu qui était Israël à l'époque, maintenant est venu se rajouter, on ne remplace pas Israël, on était rajouté, on était greffé. Hein. L'Église a aussi ses prêtres. Quand le peuple est arrivé enfin en terre promise, on apprend comment s'exerçait le culte à l'époque des juges, parce qu'il y a eu des juges. Les prêtres, ils consultaient Dieu par les sorts sacrés, avec l'urim et le thumim. Les prêtres veillaient à l'observation des rites, ils prononçaient des bénédictions, et en retour, ils recevaient une part des offrandes, parce que ça leur prenait tout leur temps. Ça leur prenait tout leur temps, ils n'étaient pas profs de gym à côté, il fallait bien qu'ils mangent. Ils enseignaient, psaume 15, ils répondaient au cas qui leur était soumis, 1 Samuel 1, et puis le peuple a voulu des rois. Ils ont voulu faire comme en Angleterre, ils ont voulu avoir une Élisabeth 2, une Élisabeth 3, ils ont voulu faire comme les nations, ils ont voulu un roi. Et ça a changé la donne, les prêtres n'étaient plus que des fonctionnaires royaux préposés au culte. Ça a changé beaucoup de choses. On ne réalise pas toujours, mais c'était des changements terribles. Avec le temps, évidemment, les prêtres se sont organisés, et puis le rôle du chef des prêtres a augmenté, et c'est comme ça que est apparue la fameuse famille des Tsadok ou des Tsadok, qui sont devenus, c'est une famille qui est devenue prestigieuse. Alors, la famille Tsadok était de la famille d'Aaron, c'est-à-dire Lévite aussi. Hein. On trouve ça dans 1 Chronique 5, 29, 38, Ézéchiel 40, 46, plein de passages encore. Et puis, il y a eu une réforme au temps de Josias. Vous voyez que ça n'a pas toujours été pareil. Hein. Il y a eu une réforme au temps de Josias, en 622 avant Jésus-Christ. Vous trouvez ça dans 2 Rois 22. Et les prêtres de la famille de Lévi étaient tellement corrompus et tellement idolâtres que cette réforme a consacré les droits des Tsadok, des Tsadocites, c'est-à-dire que c'était plus que eux, point final. Et il y a eu un balayage terrible. Le prophète Ézéchiel a encore accentué cette distinction. On trouve ça dans Ézéchiel 44, 6 à 31. Vous allez voir, ils ont mis de l'ordre. Hein. Mais ce que je vous dis là, c'est qu'un résumé. Je ne peux pas passer toute ma journée à vous lire tous ces textes et puis vous expliquer par A plus B comment ça s'est passé. Exactement. Mais vous pouvez aller lire, vous pouvez aller chercher, je vous donne les textes. Mais ça, c'est le résumé, c'est le tableau de l'histoire, en gros. Et puis, après ça, est arrivée l'hellénisation. C'est la tante Hélène qui est arrivée. Non, c'est pas ça, c'est les Grecs. Les Grecs. Et ils ont imposé, par Antiochus IV, 175-164 avant Jésus-Christ, ils ont imposé leur truc. À partir de là, la prêtrise a pris un coup sérieux, d'ailleurs ils s'en sont jamais vraiment remis. Hein. Le chien que vous entendez aboyer, c'est le chien de Cathy et Marc Croza. Mon chien, à moi, il aboie pas. Hein. Il est poli. Il était bien élevé. Les grands prêtres de la lignée légitime ont été ôtés de leur place. C'est terrible, hein? À partir de... Dans Antiochus IV, les grands prêtres légitimes, les Tsadok, ont été enlevés de leur place. Et puis Pompée est arrivé, et il a pris Jérusalem en 63 avant Jésus-Christ, et jusqu'en l'an 70, la nomination du grand prêtre relevait de l'autorité civile. Parce qu'il y avait tellement d'abus, il y avait tellement de trucs, c'était tellement n'importe quoi. Ils ont fait un petit peu comme la France est en train de faire maintenant. Eh bien, les imams, ils vont devoir avoir un diplôme d'État. Voilà. Voilà. Les pasteurs aussi. Voilà. C'est très bien. C'est très bien. Comme ça, les clowns, ils restent dans leur cuisine. C'est très bien. Mais oui, mais il faut de l'ordre. Alors, comme ils obéissent pas à Dieu, c'est le gouvernement civil. Mais c'est la catastrophe, là. C'est la catastrophe quand c'est le gouvernement civil qui se met à s'occuper des affaires divines. C'est pas possible, c'est pas bien. Alors, l'enseignement est devenu l'affaire des laïcs. Des laïcs, un petit peu comme de nos jours. N'importe quel gueulu qui connaît 3 versets bibliques et puis qui est un peu bavard, qui a du baratin, il peut se placer comme pasteur, et il a toute une bande d'ânes gris qui le suivent, n'est-ce pas? Oui, je suis revenu le 15 septembre, alléluia! Ah ben, excusez-moi, je me suis trompé, il revient le 25 mars, alléluia! Et puis, il le suit toujours, voilà, n'importe quoi. Puis vous en avez d'autres, ils les jettent par terre. J'ai vu des vidéos, il y en a qui font brouter les chrétiens. Ils vont dans les champs et ils broutent, ils disent « Vous êtes des moutons du Seigneur ». Il y en a un autre, je veux aussi aller sur YouTube, aller regarder. Eh bien, le pasteur, il appelle ses brebis, alors les gens se mettent à quatre pattes, puis ils le suivent comme ça. Il marche avec les gens qui marchent à quatre pattes derrière lui. Voilà, on en arrive à des aberrations. Vas-y que je te fouette avec ma veste au nom de Jésus, puis tu tombes par terre, et puis mais du n'importe quoi, et ça rit comme des hyènes. Enfin voilà, c'est le grand désordre, le grand désordre, le grand désordre. C'est l'affaire des laïcs, c'est des laïcs, ce sont des gens qui ils sont entre copains, ils ont créé une association, et puis ils se délivrent des diplômes, et puis voilà, et puis ils se croient pasteurs, et puis surtout les gens les croient pasteurs, ou prophètes, ou ceci, cela. C'est ce qu'on appelle, à l'époque on les appelait les docteurs de la loi, c'est-à-dire c'est des pharisiens qui s'opposait aux Sadducéens, qui s'opposait aux pharisiens, qui s'opposait aux Sadducéens, qui s'opposait aux pharisiens. Puis il y a eu un groupe qui a vu clair, c'était les Esséniens. Eux, ils ont pris tous les bouquins, ils sont taillés tout près de la mer Morte, là-bas, à Qumran, et ils ont recopié les textes sacrés. Comme ils ont senti que ça sentait le roussi, que les Romains allaient venir les tuer, ils ont caché tout ça dans les grottes, et on les a retrouvés dernièrement. Quand l'État d'Israël a été reconnu, les Écritures sont ressorties. Le même jour, c'est extraordinaire. Quand Israël reprend vie, les écrits sacrés reprennent vie aussi. Mais ça, les chrétiens ne savent même pas. Ils ne savent même pas ça. Ils ne savent pas. Ils savent quoi ? Ils ne savent pas grand-chose. Mais enfin, bon, voilà. Alléluia. Et puis Jésus est arrivé. Jésus n'était pas de la tribu sacerdotale. Il était de la tribu de Judas. Pas de Judas, celui qui l'a trahi. Hein. Là aussi, il faut expliquer aux chrétiens que c'est deux choses différentes. Hein, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas. Il y a une tribu... Hein, voilà, qui s'appelle la tribu de Judas, qui n'a rien à voir avec Judas l'Iscariote. Et il n'a jamais revendiqué le titre de prêtre. Jésus n'a jamais revendiqué le titre de prêtre. Jamais. Il n'y a que l'Épître aux Hébreux qui décerne à Jésus le titre de grand prêtre. Et l'Épître aux Hébreux, en fait, elle commente abondamment le psaume 110 que je vais vous lire. C'est un psaume de David et la lettre aux Hébreux commente à fond ce psaume. Voilà ce que David écrivait. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance et ta puissance domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés. Du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, il ne se rétractera pas, tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Le Seigneur est à ta droite, il écrase des rois le jour de sa colère, il exerce la justice parmi les nations, tout est rempli de cadavres, il écrase des chefs sur tout le territoire, il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Voilà, et la lettre aux Hébreux commente tout ça pour montrer que c'est Jésus, et on le comprend. Quand on dit ça, on comprend, mais quand David a dit ça, est-ce qu'il a compris ce qu'il disait ? Pas plus que Pierre, quand il a prophétisé que c'était pour toutes les nations. Hein, il a dit, le Saint-Esprit est répandu jusqu'aux extrémités de la terre, puis après, il faut attendre le 10e chapitre des Actes pour voir que, ah ben oui, maintenant je comprends enfin que Dieu fait exception de personne. Vous voyez, quand on est sous onction, on dit des choses, mais on ne les comprend pas forcément. Eh oui, on est toujours là, hein, l'homme est l'homme, c'est comme ça. Donc, ce passage des Hébreux, cette lettre aux Hébreux, eh bien, qui nous dit que Jésus-Christ est grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek, s'épuisait dans le psaume 110. Hébreux 5, 6 démontre magistralement que Jésus est prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Lisez-le. Jésus est supérieur à Moïse. Il est l'apôtre de notre foi. Hébreux 3, 1. Son sacerdoce, sa prêtrise, il la tient de l'appel de son Père. Hébreux 5, 5. On n'est pas... Je vais y venir, mais c'est toujours par appel, par un appel divin, par prophétie et par imposition des mains qu'on devient prêtre. Il y a de l'ordre dans l'Église, c'est pas n'importe quoi. Et il exerce sa prêtrise en faveur de ses frères, les hommes. On trouve ça dans Hébreux 2, 5 à 18. Voilà, pour Jésus. La prêtrise de Jésus, elle est unique. Parce qu'il a ouvert par un unique sacrifice le passage des hommes à Dieu. C'est lui qui a ouvert le passage, c'est unique. On ne peut pas refaire ça. On n'a pas à refaire ça. C'est en cela qu'il est intransmissible, cette prêtrise. Il est intransmissible. Il est entré lui-même avec son propre sang en présence de Dieu. Hébreux 9, 24, 28. Alors, c'est par la foi en l'efficacité suprême de son sacrifice et par l'offrande du sacrifice de louange que nous pouvons être sauvés. Ah ah, voilà encore quelque chose. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Oui, 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 mais pas que. Hein, regardez par exemple, donc, Hébreux 13, 5, 17. Hébreux 13, 5, 17. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien, que peut me faire un homme? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. Il est bon en effet que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont été d'aucun profit à ceux qui s'en sont fait une règle. Nous avons un autel dont ceux qui accomplissent le service du tabernacle n'ont pas le droit de tirer leur nourriture. En ce qui concerne les animaux, dont le sang est apporté par le grand prêtre dans le sanctuaire pour l'expiation des péchés, leur corps est brûlé à l'extérieur du camp. Voilà pourquoi Jésus aussi, afin de procurer la sainteté au peuple, au moyen de son propre sang, a souffert à l'extérieur de la ville. Sortons donc pour aller à lui, à l'extérieur du camp, et supportons d'être humiliés comme lui. En effet, ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront en rendre compte. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Vous voyez que, voilà, ce n'est pas simplement croire, il faut ensuite rentrer dans notre fonction, n'est-ce pas, et faire les choses qui doivent être faites. Dans Exode 9, 19, 6, Exode 19, 6 est utilisé par le livre de l'Apocalypse pour dire que tous les vrais membres du corps de Christ sont prêtres. C'est piqué dans Exode 19, 6. Vous irez lire. Mais il n'y a pas que l'Apocalypse de Jean qui dit cela. On pourrait dire, oui, il n'y a qu'un texte, comme ceux qui me disent, oui, il n'y a qu'un texte pour ci, il n'y a qu'un texte pour ça. C'est parce qu'ils n'étudient pas, ils ne cherchent pas. 1 Pierre 2, 5, 9 nous dit très clairement ces choses. Écoutez ça. 1 Pierre 2, 5, 9. Et vous-même, en tant que pierre vivante, Jésus-Christ est la pierre qui était rejetée et nous sommes des pierres vivantes. Laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Laissez-vous être construit. Vous devez vous laisser manipuler pour être des pierres dignes de pouvoir être ajoutées à l'édifice. Vous devez vous laisser édifier pour être une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ, parce qu'il n'est pas obligé d'accepter tous les sacrifices. Il n'a pas accepté le sacrifice de Caïn parce qu'il n'était pas conforme. Et si vous faites un sacrifice, tout ça peut vous coûter très cher, mais si c'est pas conforme, ça vaut rien du tout. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets en sion une pierre angulaire choisie et précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. » Et nous croyons, mais nous nous soumettons ensuite à cette pierre, à son enseignement. Sinon, ben, c'est vain, c'est vain. Alors, nous sommes tous prêtres du Très-Haut, d'après ce texte-là aussi, que nous venons de lire. Alors, quelle est notre fonction? Eh bien, nous offrons à Dieu le sacrifice de louange. C'est vrai ou c'est pas vrai? Nous avons un sacrifice de louange, c'est pas simplement dire Alléluia, gloire à Dieu, mais c'est de faire des actions qui louent Dieu. Et nous offrons à Dieu en sacrifice la consécration de toute notre vie au quotidien. On peut lire ça dans Romains, au chapitre 12, et versets 1 et 2. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de vous, de votre part, un culte raisonnable. » Qu'est-ce que c'est un culte raisonnable? C'est pas de se rouler par terre en riant comme des hyènes, non. C'est de se consacrer au quotidien et d'offrir à Dieu notre corps comme un sacrifice vivant et nos œuvres, etc. Voilà ce qu'est notre prêtrise à tous. Et cette prêtrise, c'est une moindre prêtrise, un peu comme celle d'Aaron par rapport à Moïse. Et c'est une moindre prêtrise, la nôtre, par rapport à Jésus, qui est notre grand prêtre. Car la grande prêtrise, c'est celle de Jésus-Christ, celle de Melchisédek. Et cette prêtrise n'est pas transmissible. On va lire Hébreux 7, 20-25, parce que c'est bien qu'on le lise, mais c'est bien qu'on le lise. Cela ne s'est pas fait sans prestation de serment. En effet, si les Lévites sont devenus prêtres sans qu'un serment soit prêté, Jésus est devenu à travers le serment prêté par Dieu, qui lui a dit, le Seigneur l'a juré et il ne se rétractera pas, tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. C'est pour cela que Jésus est le garant d'une bien meilleure alliance. Ça c'est Hébreux 7, maintenant on continue. De plus, il y a eu des prêtres lévitiques en assez grand nombre parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Ils mouraient. Hein? Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas. Vous voyez? C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça signifie. Ça signifie cela. Que les grands prêtres devaient être changés à leur mort par un autre grand prêtre qui prenait la place de celui qui était décédé. Par contre, Jésus, notre grand prêtre, n'est pas mort. Il est toujours vivant. Et il ne peut pas être remplacé par quelqu'un. Alors l'autre, en dentelle blanche là-bas, à Rome, qui se fait passer pour le vicaire, c'est-à-dire le remplaçant de Christ, mais c'est un blasphème. Pardon les catholiques. Pardon les catholiques. Mais si je vous avertis pas, ben, je suis quoi, moi? Je vous chatouille les ailes et puis je vous laisse dans vos ténèbres? Non, je suis obligé de vous le dire. Ça n'est pas transmissible. Il ne peut pas être le vicaire du Christ. Il ne peut pas être le remplaçant du Christ. Ça n'est pas transmissible. Voilà ce que la Bible dit. Pas ma Bible protestante. Votre Bible à vous aussi, les catholiques. Lisez-la. Lisez-la. Alors, quel nom donner à notre prêtrise? On n'est pas obligé de lui donner un nom. Mais on peut l'appeler la prêtrise d'Aaron. Comme ça nous fixe dans notre pensée. C'est une moindre prêtrise. Vous voyez? Voilà pourquoi on peut l'appeler, mais on n'est pas obligé de l'appeler comme ça. Il faut comprendre que nous avons principalement donc deux fonctions. Une auprès de Dieu, en lui offrant un sacrifice de louange, et puis de nos actions, etc., etc. Et deuxièmement, nous avons une fonction auprès du peuple, étant intermédiaire, parce que sans nous, comment seront-ils et comment pourront-ils être sauvés? Par exemple, quand ce fameux prophète avait dit, il y a des milliers d'âmes qui vont venir devant le portail, je dis, mais il faut aller les chercher. Non, ils vont venir tout seuls. Ah bon, comment? C'est impossible. Les gens ne viennent pas, voilà, tout d'un coup, là, devant la rue, on vient pour se convertir. Non, il faut que quelqu'un les avertisse, il faut que quelqu'un leur parle, ou alors qu'ils aient une Bible avec l'adresse, n'est-ce pas, du lieu où... Non, ça ne tient pas debout. Nous sommes des intermédiaires. C'est par la folie de la prédication que les gens sont sauvés. C'est pas en priant dans votre cuisine ou dans votre chambre à coucher ou dans votre ordinateur que les choses vont se produire. Pas du tout. Il faut prêcher. C'est par la folie de la prédication. Voilà pourquoi j'ai reconnu cette prophétie pour fausse. Enfin, du moins, cette partie de la prophétie. J'avais d'autres choses qui étaient bien. Bon, alors... Les gens, ils apprennent que Jésus-Christ est le Sauveur par notre témoignage vécu et aussi par notre témoignage parlé. C'est comme ça que ça se passe. Bouche à oreille. Mais aussi, il y a le livre, la Bible. Ceux qui détiennent cette prêtrise ont l'autorité pour agir au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de la part de Jésus. Comme, je dis toujours, comme un flic qui est là au nom de la loi. Il représente la loi. Il représente Hollande. Enfin, du moins, jusqu'à ce qu'il s'en aille. Après, ce sera un autre. Il représente toute la loi. Quand vous êtes là au nom de Jésus, vous représentez toute l'autorité de Jésus. Et l'autorité de la prêtrise, elle est conférée par l'imposition des mains dans l'Église. C'est pas quelqu'un qui, tout d'un coup, là, décide, « Ah, ben voilà, j'ai eu un signe. » qui me dit qu'il faut que j'aille prêcher, où j'ai eu, il y en a qui ont des cygnes, il y en a qui ont des canards, il y en a qui ont des tout ce que vous voulez. Non, 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 non. Ça doit se passer dans l'ordre. On ne joue pas avec les choses sacrées. Cette prêtrise que tous les chrétiens, c'est-à-dire tous les membres du corps de Christ, c'est-à-dire de l'église de Jésus-Christ, que Jésus-Christ est en train de rétablir, ces membres-là, ces chrétiens-là, donc, sont chargés d'agir au nom du Seigneur Jésus pour le salut de l'humanité. Pas n'importe qui. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Si vous croyez que Dieu est un Dieu de désordre, continuez comme ça. Vous verrez bien à la fin. Cette prêtrise n'est pas hors contrôle de l'Église, qui elle-même est bâtie par Jésus-Christ, qui lui-même en est le souverain grand sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Lui-même, selon les critères qu'on trouve dans les Écritures, c'est pas lui qui a dit « je suis prêtre », c'est son Père qui le lui a dit et qui nous l'a fait savoir. Alors, il y a une autre prêtrise dans l'Église qui est plus haute que celle que détiennent tous les chrétiens. C'est la prêtrise dont nous parle Éphésiens 4, 11. Dans cette prêtrise-là, nous trouvons les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, ou enseignants si vous voulez. C'est ce que les églises appellent les cinq ministères de la parole. Voilà, c'est un terme qu'on donne, les cinq ministères de la parole. Voilà. Ceux-là doivent s'attacher à leur ministère, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller balayer dans une usine le soir ou... Et puis être... Non, 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 non. Ils doivent être soutenus par l'Église. S'ils ne sont pas soutenus par l'Église, c'est parce que l'Église qu'ils ont n'est pas digne. Vous voyez ce que je veux dire? L'autre qui me disait, je suis pasteur. Ah oui, de quoi? De qui? Ces ministères sont reconnus par l'Église. Et donc, soutenus spirituellement par l'Église et soutenus matériellement par l'Église. C'est normal qu'après avoir été ceux qui vous donnent ce dont vous avez besoin pour vivre au sujet des choses de Dieu, il est normal que nous prenions de vous ce qui est nécessaire pour notre vie temporelle. Je paraphrase ce que l'apôtre Paul dit. Évidemment, ces ministères de la haute prêtrise, on va l'appeler, puisqu'il y a la moindre prêtrise, c'est tout le monde, mais il y a le ministère de la haute prêtrise, c'est-à-dire ces cinq ministères de la parole, ils exercent aussi la moindre prêtrise. C'est-à-dire que les pasteurs, les apôtres, les docteurs, les prophètes, tout ça, ils sont aussi des prêtres, comme tous les chrétiens, puisqu'ils sont chrétiens. D'accord? Mais ils ont une charge en plus, c'est de conduire l'Église. De conduire l'Église. Alors ça, on trouve dans Hébreux 13 encore, je vous l'ai lu tout à l'heure, mais je vais vous relever certaines choses. Au verset 13, au verset 7, souvenez-vous de vos conducteurs. Au verset 17, obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux. Au verset 24, saluez tous vos conducteurs, ainsi que tous les saints. Il y a une différence. Tout le monde n'est pas conducteur dans l'Église. Même un prêtre, vous êtes prêtre parce que tout chrétien est prêtre. Mais un prêtre n'est pas un conducteur. Les prêtres doivent se soumettre au conducteur et pas le contraire. Ce n'est pas les détenteurs de la prêtrise moindre, c'est-à-dire celle qu'on peut appeler la prêtrise d'Aaron, si vous voulez, par rapport à Moïse, qui peuvent conduire l'Église. Non, monsieur. C'est ainsi, par exemple, que Dieu donne des révélations à tous, mais pas dans le désordre. Les prêtres de la moindre prêtrise, c'est-à-dire tous les chrétiens, peuvent recevoir des révélations les concernant eux-mêmes et concernant leur famille. Point final. Mais, en aucun cas, ils ne peuvent recevoir de révélations concernant la marche de l'Église. Cela revient au ministère, au ministre de la parole, de la haute prêtrise, des conducteurs. Il y a beaucoup de confusion dans les milieux charismatiques, surtout au sujet justement des prophètes et de ceux qui ont reçu le don de prophétie. Les chrétiens, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la différence. Je vous explique. N'importe quel chrétien peut donner une prophétie dans l'Église. S'il a reçu de Dieu, il peut donner une prophétie. Pourquoi il va donner une prophétie? Ben c'est simple, c'est 1 Corinthiens 14, 3 qui nous le dit, pour édifier, pour encourager, pour réconforter les membres de l'Église, mais pas pour diriger. Pas pour dire, ainsi dit le Seigneur, il faut mettre des anciens. Pas pour dire, Michel, toi tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois aller en Afrique avec tant d'argent, et je te dis à quelle date. Pas du tout. C'est pas les prêtres de la moindre prêtrise qui doivent diriger l'Église. Jamais, en aucun cas. Les prophètes qui ont le don de prophétie, qu'on trouve dans Corinthiens, parmi les 9 dons, ces prêtres-là, ils servent à édifier leur prophétie, ils servent à édifier, encourager et réconforter. Point final. Voilà ce que la Bible dit. Mais aucun d'eux n'a l'autorité pour dire ce que l'Église doit faire, quelle orientation Dieu veut donner à l'Église, ou autre chose concernant le fonctionnement de l'Église. Jamais. Dans la Bible, on n'en trouve pas des milliers de prophètes. Il y en a un qui est nommé, il s'appelle Agabus, qui était un ministre, prophète. Vous trouvez ça dans Actes 11, 28, Actes 21, 10. Il était prophète, c'est pas un homme qui avait le don de prophétie. Évidemment qu'un prophète a le don de prophétie. Mais il a en plus, il est conducteur. Vous voyez la différence? C'est important. Il y a donc deux choses bien distinctes. Il y a des gens chrétiens, donc prêtres, qui peuvent donner une prophétie pour édifier, encourager, réconforter l'Église. Et il y a des gens qui sont prophètes pour annoncer l'avenir et conseiller l'Église par rapport à ce qui a été dit de la part du Seigneur. Il ne faut pas mélanger tout. Il ne faut pas confondre les deux. Il y a peu de ministres prophètes. Le dernier que j'ai connu, qui était vraiment mondialement connu, c'est David Wilkerson. Après, il y en a eu d'autres, des plus petits. Il y en a un qui s'appelle Lévi en ce moment en Afrique, qui est fantastique. Il y a la sœur Suzanne aussi, qui est fantastique. Mais ils travaillent en soumission avec l'Église. Ils ne font pas ce qu'ils veulent. C'est de l'ordre, il y a de l'ordre, il doit y avoir de l'ordre. Cela, c'est une des principales causes de confusion dans les églises charismatiques. N'importe qui, parce qu'il a reçu un petit don de prophétie, se prend pour un prophète. Mon Dieu! Par manque de connaissances, mon peuple périt. Il n'y a pas d'ordre dans les églises parce qu'ils ont rejeté l'ange de Laodicée. Voilà la raison. Voilà la raison. Parce que l'ange de Laodicée a expliqué toutes ces choses. Dans tout ce que Dieu fait, il y a de l'ordre. Regardez comment ça a commencé, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il était de la famille d'Aaron. C'était pas un gueulu qui sortait comme ça par hasard. Bien sûr qu'il était aussi de la famille de Jésus, c'était son cousin. Et par sa mère, il était descendant d'Aaron. Mais la preuve, Luc 1, 5. C'est par la mère que ça passe. Bizarre. Il a reçu les clés de la prêtrise pour ouvrir la dispensation de la grâce qui venait, c'est-à-dire Jésus. C'est lui qui avait la clé pour ouvrir. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, de nos jours, n'importe quel bavard peut devenir pasteur. C'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. On ne peut pas jouer avec ces choses sacrées impunément. Si on joue avec ces choses sacrées, ça tient un temps, le temps de la patience de Dieu, et puis un jour, bam! On ne peut pas jouer avec les choses sacrées de Dieu impunément. Alors, la prêtrise moindre est pour les gens authentiquement nés de nouveau, et la prêtrise supérieure, les 5 ministères si vous préférez, est la puissance de Dieu déléguée aux hommes par laquelle les ministres peuvent agir sur la terre légitimement, tellement légitimement que ce qu'ils décident sur la terre, c'est décidé au ciel. Pour conduire l'Église. Et c'est cette même prêtrise qui avait été donnée aux 12, de sorte que tout ce qui liait sur la terre était lié dans les cieux, mais ce n'était pas donné à la concierge du 28. Heureusement. Et tout ce qu'il délierait sur la terre serait délié dans les cieux. C'était donné aux 12 qui étaient appelés par Jésus lui-même, qui leur a imposé les mains. Ça a d'abord été donné à Pierre, Jean 16, 19, et puis Jésus le donna ensuite aux 12 au sujet de cette direction, au sujet de la direction de l'Église. Vous trouvez ça dans Jean 18, 18. On va le lire, parce que sinon peut-être vous n'allez pas me croire. Puis comme je sais que la plupart des chrétiens ne lisent pas la Bible, donc Jean 18, 18, si je le retrouve, Marc, Jean, 18, 18, c'est pas ça, mais j'ai bien fait de le chercher, c'est pas ça. Bon ben vous cherchez vous-même, excusez-moi, j'ai perdu la référence. C'est pas ça. Vous chercherez, c'est peut-être Jean 8, je ne sais plus. Tous les prêtres n'ont pas ce pouvoir, le pouvoir de lier et délier, de pardonner et de retenir les péchés. C'est de ça dont il est question, de ce que je voulais vous parler. Ce ne sont que les prêtres de la haute prêtrise, les ministres de la parole, ceux qui conduisent l'Église, qui peuvent pardonner les péchés ou retenir les péchés, livrer même des gens à Satan. C'est pas n'importe qui peut faire ça. C'est pas n'importe quel prêtre qui peut faire ça. Parce que cela, ça concerne l'Église dans sa gestion, dans sa direction, dans la conduite de l'Église. Soyez soumis à vos conducteurs, pas à la concierge du 28 qui est assise là puis qui a un petit don de prophétie ou qui parle en langue avec interprétation. C'est bien, mais c'est pas ça conduire l'Église. Cette haute prêtrise, c'est le gouvernement de Dieu sur la terre en ce qui concerne l'Église, et ça concerne aussi le gouvernement de Dieu dans les cieux en ce qui concerne l'Église, par le moyen des ministères, des conducteurs. C'est pas n'importe qui. C'est par cette autorité que la véritable Église est maintenue et soutenue. Quand il n'y a pas cette véritable autorité, l'Église n'est pas maintenue, elle n'est pas soutenue. Vous allez me dire, mais il y a des grandes églises. Eh bien, elles sont des fausses églises. Voilà pourquoi Jésus dit, sortez du milieu d'eux. Cette autorité dirige tout, soutient tout, même le pouvoir de pardonner les péchés de certains ou de ne pas pardonner, c'est ça, c'est Jean 20, excusez-moi, j'ai retrouvé la référence, c'est Jean 20, 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés, ceux à qui vous les retiendrez seront retenus. Mais il dit pas ça à tout le monde. Vous voyez ? Et cette autorité a un rapport avec les choses auxquelles Dieu et la vérité s'associent. Sinon, c'est le mensonge. D'où on voit tous les abus, toutes les choses qui se passent dans les églises à l'heure actuelle. Tous ces chrétiens qui ne vont plus à l'église parce qu'ils sont dégoûtés. Mais il y a de quoi ? En fait, c'est l'autorité de Dieu déléguée aux intelligences dans les cieux et aux hommes ordonnés sur la terre. Et cette autorité n'est conférée que par l'imposition des mains. Alors, l'ordination, c'est pas une remise de diplôme. Maintenant, il suffit que vous fassiez 3 ans d'études dans une école biblique, on vous remet un diplôme. Alors, moi, j'ai un copain, il a fait 3 ans d'école biblique. Il a eu son diplôme et quelques temps après, on l'a trouvé dans une boîte de nuit assassiné à Pigalle. Pardon ? Alors vous allez peut-être me dire qu'il allait témoigner. Je connais le gaillard. Non, il n'allait pas témoigner. Tous ceux qui ont fait l'école biblique avec moi, il n'y en a pas un qui a... Ils ont eu leur diplôme, hein, mais il n'y en a pas un qui est encore pasteur. Alors, l'ordination, c'est pas une remise de diplôme ou un truc entre copains qui forment une association. C'est pas ça. L'ordination, elle est établie selon les Écritures par une révélation de la volonté de Dieu. Donc, elle s'effectue par le don de prophétie qui est donné à quelqu'un qui a autorité dans l'Église pour conduire l'Église, pas par la sœur machin, et par l'imposition des mains. Une autorité compétente. Sans cela, c'est usurpation. Et ça entraîne le désordre dans l'Église. Vous me direz, oui, mais pourvu que l'Évangile soit prêché. Vous avez raison, pourvu que l'Évangile soit prêché. Mais moi, je préfère que ça soit en ordre. Pas vous ?
Oui.
Alors cela, tout ce que je viens de vous dire, est conforme aux croyances des Assemblées de Dieu de France. Mais, le problème, c'est qu'ils ne le pratiquent plus. Ils ne font plus comme ça, parce que maintenant, ils ont leur école biblique, puis ça passe comme ça. En fait, c'est depuis qu'ils ont rejeté l'ange de la Odyssée. Et voilà, le désordre s'est installé là-dedans, et maintenant, voilà, c'est pourquoi on est sorti de là. Les gitans, eux, ils croient même pas à ça. Ils croient même pas que vous êtes tous prêtres et que vous avez le droit d'imposer les mains aux malades, etc. Ils croient que vous devez avoir la carte de pasteur pour pouvoir le faire. C'est anti-biblique. Et ils disent que c'est moi qui suis anti-biblique. On va faire des vidéos aussi pour se dénoncer les uns les autres. Moi, je m'en fous. Mon truc, c'est pas de dénoncer. Mon truc, c'est d'avertir afin que les choses rentrent dans l'ordre parce que les choses doivent être rétablies. Et s'il y a quelqu'un ici qui m'écoute, je dis pas ici la communauté parce que vous êtes déjà instruit de ces choses, mais sur Internet, s'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui comprend, eh bien, qu'il cherche la face de Dieu et qu'il trouve son chemin d'une façon correcte. Alors nous sommes sortis et nous avons rencontré Théon Osborne, qui avait été averti une semaine avant, alors qu'il était en prière avec sa femme, qu'il allait rencontrer son fils spirituel en France. Nous nous rencontrons dans un hôtel et Dieu leur montre que c'est moi. Qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que j'ai fabriqué ça ? Et puis ensuite, il y a eu ordination, avec imposition des mains de T.L. Osborne et du conseil de la Fondation. Le 7 novembre 1979, à Tulsa, Oklahoma. C'est quelque chose public, c'est quelque chose qui est reconnu par l'État américain et par 70 États où sont reconnues cette fondation. C'est-à-dire tous les pasteurs, toute l'Église qui travaille en relation avec la Fondation Osborne. C'est pas Michel Janton qui s'est mis tout d'un coup dans la tête, voilà, je suis pasteur parce que je suis un baratineur. Non. Il y a eu d'abord une prophétie. Ensuite, il y a eu imposition des mains. Et puis, T.L. Osborne, il sort d'où ? T.L. Osborne, il a été lui-même le fils spirituel de l'ange de la Odyssée, du prophète majeur William Branham, qui n'était qu'un homme, qui a dit des bêtises aussi, mais qui était incontestablement loin de Dieu pour faire des choses que peu de gens ont fait sur cette terre, en tout cas pas au siècle passé. Et William Branham, qui lui-même avait été annoncé par prophétie par les membres de l'Église des Saints des Derniers Jours, des dizaines d'années avant sa naissance, et dans cette prophétie, on l'a, son nom était prononcé. Le nom de William Branham, des dizaines d'années avant sa naissance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Voilà mes frères et sœurs. Alors quiconque se lève contre ça, contre cet ordre établi, et ose blasphémer disant que je suis inspiré par un démon, je l'invite expressément à se repentir aujourd'hui et à me le faire savoir. Simplement par un petit mot. Pardon Michel, ça suffira. Parce que le temps vient où je vais utiliser mon autorité spirituelle légitimement afin de remettre de l'ordre là où ils ont mis le désordre. J'ai patienté. Maintenant, j'arrive au bout de la patience et je veux agir selon les Écritures afin de mettre fin à cette histoire, à cette triste histoire. Ça n'est pas une menace. Ça n'est pas une menace. C'est un avertissement d'amour. car ces gens-là font partie d'un grand mouvement qui pratique ce qu'on appelle les intrigues de prêtres, par la contrefaçon de la prêtrise. Ces gens-là osent, comme au temps de Michée, dire, vous trouvez ça dans Michée 3:11, « L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. » Il y a toujours eu des gens comme ça. Mais avant l'enlèvement de l'épouse, Dieu veut faire un peu d'ordre. Parce qu'il y a des gens dans son église qui ne sont pas en ordre. Et ils doivent se repentir avant l'enlèvement. C'est pourquoi ma prédication d'aujourd'hui est un avertissement, ça n'est pas une menace. Pour le moment, Dieu voit tout le monde au travers du sang de Jésus, purifié et lavé. Mais si un serviteur de Dieu autorisé retient un péché sur la terre, il est retenu dans le ciel. Si je dis à Dieu de retenir les péchés de un tel, un tel, un tel, Dieu le fait. Et la personne concernée se trouve sous le pouvoir de Satan. Paul a fait ça 3 fois dans sa vie. 3 fois. C'est extrêmement rare. Moi, je ne l'ai fait qu'une fois. Vous vous rappelez avec qui? Et vous vous rappelez ce qui est arrivé? Vous trouvez la première fois que Paul l'a fait, c'est dans 1 Corinthiens 5:5. Vous irez le lire. Mais ensuite, il l'a fait sur 2 hommes, un qui s'appelait Alexandre et l'autre qui s'appelait Hyménée. Vous trouvez ça dans 1 Timothée 3:20. J'ai attendu quand même depuis juillet 2014 avant de prendre cette décision et de lancer un dernier appel à la repentance. Paul, il l'a fait selon l'ordre du Seigneur Jésus-Christ, aussi étrange que cela puisse paraître au bébé spirituel et au bisounours. Paul l'a fait. Car moi, le Seigneur, j'ai décrété dans mon cœur que si un homme qui appartient à l'ordre de l'Église est trouvé transgresseur, ou en d'autres termes, s'il rompt l'alliance par laquelle vous vous êtes ensemble engagés, liés dans l'Église, il sera maudit dans sa vie et il sera opprimé par qui je veux, ainsi dit le Seigneur, car moi le Seigneur, je ne souffrirai pas que l'on se moque en ces choses. Et quiconque parmi vous est ainsi trouvé transgresseur et ne se repent pas de ce mal, vous le livrerez au tourment de Satan et il n'aura pas le pouvoir d'attirer le mal sur vous. Et c'est ainsi dit le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être maudits pour l'éternité, mais ils vont être maudits sur cette terre, dans leur chair, pour qu'ils puissent se repentir. Mais ils peuvent se repentir avant ça. Mais comme ils ne veulent pas comprendre, il y a encore cette façon de faire. C'est pourquoi je le dis. Mes frères et sœurs, Dieu est en train de rétablir toutes choses, et après l'épreuve vient la victoire, alors que ceux qui ont à se repentir se repentent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur de nous avoir éclairé et montré toutes ces choses quant à la prêtrise. Je te prie, mon Dieu, que nous puissions bien intégrer ces choses et être soumis à qui de droit, et que chacun fasse ce qu'il a à faire avec beaucoup de sérieux et de respect devant toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen.
Amen. Amen.